jusqu'à midi. Vous écoutez l'effet Normando.
Ah, vos réactions sont très, très nombreuses à propos de l'enjeu des CPE. Je reviens là-dessus rapidement parce que vous êtes plusieurs à dire, bien, si les parents appuient les éducatrices en CPE, le personnel de soutien en CPE, est-ce qu'ils seraient prêts à payer davantage à chaque jour pour envoyer leurs enfants à la garderie? Par exemple, on pourrait passer d'un tarif de 8,50 à 9,50. Est-ce que le gouvernement a envisagé cette possibilité? Marqué, j'en doute, mais c'est peut-être, ça serait peut-être la voie de passage pour permettre aux parents, effectivement, de passer de la parole aux actes. C'est-à-dire, oui, on vous appuie, mais on est prêt à mettre la main dans notre poche. On est prêt à sortir un peu plus de notre portefeuille pour vous soutenir, puis le gouvernement pourrait faire son bout de chemin. Marqué, je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais c'est la solution que mettent sur la table plusieurs de nos auditeurs ce matin. Vous êtes nombreux à le dire, puis dernier commentaire là-dessus, un auditeur nous écrit, pourquoi c'était si facile de régler le conflit avec les travailleurs de la SAQ Entrepôt et c'est si compliqué avec les travailleuses, les travailleurs des CPE. Je ne sais pas, le vin semblerait que l'accessibilité au vin au Québec, c'est peut-être un enjeu plus pressant que de régler le conflit avec les CPE. Ben enfin, mystère. Je vous conduis maintenant sur un autre terrain, mais qui a peut-être un lien avec notre premier sujet. Sachez que depuis 10h26 ce matin, les femmes commenceront à faire du bénévolat au Québec. En fait, c'est une image pour dire que la rémunération horaire moyenne des femmes est de 91,9% de celle des hommes au Québec. On va en discuter avec Anne Plourde, elle est chercheuse à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour à vous, Mme Plourde.
Bonjour, Mme Normando.
C'est intéressant, ce sujet aujourd'hui. En fait, évidemment, l'image que les femmes vont être appelées à partir de depuis 10h26, là, les femmes au Québec à métier égal, à compétences égales avec les hommes, pour les 30 prochains jours, vont faire du bénévolat parce qu'elles se retrouvent encore, malgré tous les progrès qui ont été faits au Québec, elles se retrouvent encore avec un salaire moindre que celui des hommes. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Puis c'est vrai ce que vous dites, là, cet écart-là, on l'observe systématiquement, peu importe la variable qu'on regarde. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que qu'on parle de niveau de scolarité, de statut d'emploi, de niveau de compétence. Donc pour les mêmes niveaux de scolarité, de compétence, les tailles d'établissement, les secteurs d'appartenance, les mêmes industries, les femmes sont systématiquement payées moins que les hommes en termes de rémunération horaire. Donc là, on parle même pas du revenu annuel, là, parce que quand on regarde le revenu annuel, l'écart est beaucoup plus important parce qu'on sait aussi que les femmes sont surreprésentées dans les emplois à temps partiel. Et donc, quand on regarde le revenu annuel moyen, c'est un écart de 23,8% qui persiste entre les hommes et les femmes. Et donc, selon cet indicateur-là, ce serait même à partir du 5 octobre que les femmes du Québec commenceraient leur période de bénévolat, là, en guillemets.
Mettons un chiffre derrière ce 23,8%, l'écart, là, l'écart qui existe entre le revenu d'un homme et d'une femme. En 2019, là, une femme gagnait en moyenne 39 800 $ et pour l'homme, c'était 52 200 $. Ça, là, c'est à compétences égales, on fait le même métier. Parce que c'est important, il faut comparer des pommes avec des pommes. Il y a un auditeur qui écrivait tantôt, il ne faut pas confondre équité et la loi sur l'équité et l'égalité, c'est deux choses complètement différentes. Mais moi, Anne, je suis étonnée de ça, je vais vous dire, parce que il y a plusieurs années, moi j'ai fait partie d'un gouvernement qui a adopté la loi sur l'équité salariale. À l'époque, on a mis 1 milliard de dollars sur la table pour réduire justement les disparités dans les différents corps d'emploi entre les hommes et les femmes. Et ça fait quoi, là? La loi sur l'équité salariale a 25 ans aujourd'hui. Et c'est tout. On a l'impression que les femmes traînent encore de la patte. Comment expliquer ça?
Bien, en fait, la loi sur l'équité salariale, on peut penser qu'elle a eu un impact quand même, là. Diminution des inégalités, oui, effectivement. Donc, il y a une diminution des inégalités depuis, moi, j'ai des données depuis 1997, là, donc ça correspond à peu près. Mais la diminution est très, très lente. Si on continue au même rythme que dans les 20 dernières années, 25 dernières années, ça va prendre encore 50 ans avant qu'on atteigne l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est une diminution qui est un rattrapage, si on veut, qui est beaucoup trop lent pour ce qu'on peut accepter en tant que société, là. Mais la loi sur l'équité salariale, ça contribue probablement au fait qu'au Québec, vont s'en tirer quand même mieux que dans les autres provinces et dans le reste du Canada. Donc, l'écart au Québec est moins important qu'en moyenne au Canada et qu'en moyenne en Ontario aussi. Dans ces lieux-là, là, c'est plus autour du 19-18 novembre là, qu'on commence notre période de bénévolat du côté des femmes. Et ça, si au Québec on se situe mieux, ben c'est probablement en raison de politiques comme celle de l'équité salariale qui ont été adoptées. On peut penser, vous parliez beaucoup là, des centres de la petite enfance dans le segment précédent. Ben ça aussi, c'est un facteur qui nous distingue au Québec du reste du Canada. On a développé dans les années 90 un réseau de garderies publiques avec un tarif accessible qui a favorisé énormément l'accès des femmes au marché du travail et qui contribue probablement aussi à ce qu'on se positionne mieux que le reste du Canada en termes d'équité salariale entre les hommes et les femmes.
Il y a un auditeur qui nous demande de donner un exemple concret de disparité entre un métier occupé par une femme et un homme, puis pour lequel la femme est moins payée. Je ne sais pas, vous dites parce que les femmes sont plus à temps partiel, mais est-ce que vous avez des exemples concrets? Parce que là, on parle du même niveau de compétence, même durée d'emploi, on travaille dans des établissements de même taille, que ce soit dans le secteur public ou privé. Avez-vous des exemples concrets, Anne, à partager avec nous?
Ben dans l'étude, on n'a pas été voir là, on n'a pas comparé les titres d'emploi entre eux, mais je lisais là pas plus tard que ce matin justement à propos des éducatrices en service de garde que pour calculer leur niveau de rémunération en fonction de la loi sur l'équité salariale, ben plutôt que de les comparer avec d'autres personnes dans le secteur de l'éducation ou d'autres personnes qui ont un niveau de diplomation technique, donc de niveau cégep, ben on les compare avec des concierges. C'est avec les concierges qu'on les compare pour essayer d'établir le niveau d'emploi qui serait équitable, alors que dans le cas des éducatrices en service de garde, on peut penser quand même que le niveau de responsabilité est pas le même là. Donc ça c'est peut-être un exemple concret là qui fait un peu écho à l'actualité. Mais ce qui est clair c'est que on sait là avec les données qui sont là que à niveau de compétences égales, donc pour les femmes gestionnaires par exemple, si on les compare au salaire des hommes gestionnaires, les femmes gestionnaires ont des niveaux de rémunération inférieurs en moyenne aux hommes gestionnaires. Si on prend les niveaux de formation universitaire, ben les femmes avec un même diplôme universitaire de même niveau vont avoir en moyenne un salaire horaire moins élevé que celui des hommes. Donc à tous les points de vue, les femmes vont être désavantagées. Sauf dans le cas, ça c'est quelque chose qui nous a étonnés, là, on a constaté que il y a seulement pour ce qui concerne les emplois syndiqués que là l'inégalité disparaît presque complètement. Donc là, il semble y avoir un effet de la syndicalisation sur la capacité des femmes à aller chercher une plus grande équité salariale. Et ça explique aussi peut-être le fait qu'au Québec, on s'en sort mieux, parce qu'on sait aussi qu'au Québec, on a un des taux de syndicalisation les plus élevés en Amérique du Nord. Là. On est à 39,4%, alors que dans le reste du Canada, ça tourne plus autour de 30%. C'est peut-être aussi un des facteurs qui fait que les femmes québécoises sont moins désavantagées par rapport aux hommes que les femmes ontariennes ou canadiennes.
Oui, mais Anne, en 2019, c'est vrai que 39,1% des travailleuses et des travailleurs au Québec étaient syndiqués, mais ça fait en sorte qu'il y a quand même 60% des travailleurs qui ne le sont pas, et ça crée effectivement de l'inéquité. Il y a une dame qui écrit « J'ai 82 ans, j'ai toujours travaillé à salaire moindre qu'un homme, même si je faisais le même travail qu'eux. » Évidemment, elle a compris qu'elle ne pouvait pas compter sur l'aide du gouvernement pour s'en sortir. Si vous permettez, Anne, je vais interpeller nos auditeurs sur cette question. Est-ce que ça vous choque de savoir que les femmes, là, on parle évidemment à compétences égales, on parle du même travail. Est-ce que ça vous choque de savoir que les femmes gagnent 92% du salaire des hommes? 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Anne Plourde, notre invitée chercheure à l'IRIS, vous demeurez avec nous. On va donc aller voir ce qu'en pensent nos auditeurs. On vous revient avec vos commentaires et vos réactions dans quelques instants.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando. L'effet Normando. La parole est à vous.
A pour le même type d'emploi, dans la même organisation, vraiment, là, puis on ne parle pas d'employés syndiqués, c'est important de le préciser, bien, sachez qu'aujourd'hui, encore en 2021, les femmes gagnent 92 % du salaire des hommes. Il y a une auditrice qui, ou auditeur, qui réagit en disant « Je refuse de croire qu'une caissière engagée au IGA gagne 91 % de l'heure que ce que le caissier engagé hier gagne. » Donc, deux caissiers engagés dans un IGA hier, une caissière, un caissier, elle dit « Je ne peux pas croire que la femme gagne moins que l'homme. » Ben peut-être que c'est le cas. Il y a Vincent qui souhaite nous parler, mais notre invité Anne Plourde, je vais revenir parce que moi, me vient en tête. OK, je vais partager ça tout de suite avec vous. Me vient en tête, par exemple, Sonia qui m'a écrit cette semaine. Elle est mécanicienne dans un garage. Prenons un garage pas syndiqué, garage concession automobile. Il y a des mécaniciens et des mécaniciennes. Est-ce que ça veut donc dire qu'on pourrait être confronté à un cas de figure où Sonia, par exemple, qui est mécanicienne, gagne 92 % du salaire de son collègue de travail, pas syndiqué, ils font le même travail? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, Anne Plourde, notre invitée, concrètement? Est-ce que ça pourrait être ça comme situation?
Bien, en fait, ça ne veut pas nécessairement dire dans la même entreprise, dans la même organisation. Et si c'est le cas, il y a des facteurs qui peuvent expliquer ça, mais ces facteurs-là sont systémiques. Par exemple, si on prend le cas de Sonia et de son collègue, on peut imaginer que Sonia va avoir été retardée sur le marché du travail pour des raisons de responsabilité familiale, va être arrivée sur le marché du travail un peu plus tard ou va avoir dû s'absenter plus souvent pour des raisons familiales. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que les femmes sont beaucoup plus représentées dans les emplois à temps partiel et que les emplois à temps partiel sont vraiment moins bien rémunérés que les emplois à temps plein, notamment okay. parce que les femmes restent encore aujourd'hui responsables des tâches domestiques, du soin des enfants, restent davantage responsables que les hommes de okay. ces tâches-là. Donc, c'est pas nécessairement dans la même organisation, ce sont des moyennes. Donc, ce que ça veut dire, c'est, mais par catégorie d'industrie, par exemple, on sait que dans l'industrie de la construction, les femmes vont être moins bien payées que les hommes. Dans l'industrie du commerce de détail, les femmes vont être moins bien payées que les hommes. Donc, dans chaque catégorie d'industrie, dans chaque type d'emploi, les femmes vont être systématiquement moins bien payées que les hommes okay. en moyenne.
Anne, on va aller joindre Vincent qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Bonjour à vous, Vincent. Bon mercredi.
Bonjour, Nathalie. Comment allez-vous?
Ça va bien, Vincent. Votre opinion sur le sujet?
Oui, je vais vous faire, avant de vous faire le commentaire sur ce qui se passe à Singapour, pour faire le relais entre le sujet que vous abordez maintenant et le sujet précédent, il y a un pont à faire entre la demande, par exemple, des cuisinières et tout ça, et de tous les employés de soutien. Et il n'y a aucun homme qui accepterait de faire ces jobs-là pour le salaire qu'il paye ces femmes-là. Et justement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs actuellement les gouvernements n'utilisent pas cette occasion-là de faire ce rattrapage-là, quitte, comme vous dites, à augmenter $1 par jour. Les gens sont, on parle de 7-8 $ par semaine, et les gens payent $140 de l'heure pour faire changer chez les concessionnaires, là, pour faire réparer leur voiture, et leur petit chérubin ne mérite que ce genre de traitement-là. J'ai du mal à comprendre que ces professions-là ne soient pas plus valorisées, donc ça serait une occasion des gens en partant. Donc ça, c'est un côté éditorial. Puis je vais vous dire ce qu'ils font à Singapour. À Singapour, ils ont établi un système de pointage qu'ils ont rendu obligatoire de remplir par les employeurs. C'est-à-dire qu'à un nombre de points égal, c'est-à-dire si vous faites la même job, que vous soyez handicapé, femme ou peu importe, vous êtes obligé par le tribunal administratif de rémunérer de la même manière. Et ça, c'est peu importe l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont établi des barèmes qui font en sorte que même certaines entreprises ne pourraient pas rentrer en compétition déloyale avec d'autres entreprises offrant les mêmes services. Pour niveler ça, et donc ils ont établi un système de pointage qui rend, donc là, il y a un minimum en deçà duquel un employeur peut rémunérer, évidemment il y a une marge, mais ils ont diminué en 10 ans 80% de l'écart qu'il y avait, c'est-à-dire que ce dont vous parlez tout à l'heure, à savoir que ça prendrait 40 à 50 ans, là, votre intervenante, mais là-bas oui. ils l'ont réglé presque en 10 ans, que ce soit dans le domaine bancaire, dans le domaine du service, et ils sont 5,7 millions d'habitants, ils ont réussi à rétrécir ça avec comme effet une grande compétitivité, des femmes qui arrivent, qui se scolarisent, qui parce qu'elles savent, sont très motivées, elles savent qu'elles vont accéder à des postes égaux, même si ce n'est même au contraire. C'est très valorisé pour les femmes d'accéder à ces postes-là. Elles sont même souvent mieux rémunérées à cause de leur sensibilité personnelle. Et alors, ils ont vraiment...
Wow, j'inviterais
le gouvernement à regarder
oui.
ça.
Oui, merci beaucoup, Vincent. C'est effectivement extrêmement instructif. Un bref commentaire, Anne, pour terminer ce segment sur l'observation de Vincent à Singapour. C'est intéressant quand même.
Oui, ben c'est intéressant, puis ça montre en fait que c'est possible d'accélérer cette réduction de l'écart entre la rémunération des hommes et des femmes, mais on peut pas juste se fier à la bonne volonté des employeurs. On a besoin de politiques structurantes qui vont accélérer les choses. C'est ce qu'on a fait avec la loi sur l'équité salariale, mais il faut encore aller plus loin. Il faut augmenter l'accessibilité aux services de garde, notamment.
Merci beaucoup, Anne Plourde. Je le rappelle, vous êtes chercheuse à l'IRIS. Merci de toutes ces informations sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes. Excellente journée. Après la pause, les deux mains sur le volant, mesdames et messieurs.